critique du père Marie-Dominique Philippe le 6 juin, l'an 2000 à Saint-Jean-d'Or.
Je ne reviens pas sur la phase du conseil et de la délibération. Vous comprenez qu'on pourrait développer ça énormément. Et ce serait intéressant. Ça montrerait que le philosophe doit regarder le lien entre l'individu et la personne. La personne donne la finalité et l'individu nous met dans un conditionnement. Si vraiment notre corps est un conditionnement substantiel, ça nous fait comprendre combien c'est délicat la relation entre la personne et l'individu, la finalité et les moyens. Et on retrouve toujours cela, constamment. Et comme les moyens, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd à porter. C'est la quantité dans les moyens. C'est tout le conditionnement. Très facilement, on glisse vers le point de vue psychologique et on ne voit plus le point de vue de la finalité. C'est là la différence qui existe. Oui, le point de vue psychologique regarde le conditionnement pour lui-même et essaie de le résoudre pour lui-même. C'est très curieux. Vous n'avez qu'à... Il faut faire un peu de psychologie pour ne plus en faire. Mais en faire pour bien voir que la finalité disparaît. Il n'y a pas de finalité dans un raisonnement psychologique. Oui. Et on ne peut pas l'introduire. Parce que vous ne pouvez pas introduire la finalité par le conditionnement. La finalité se découvre par elle-même. C'est ça qu'il faut toujours se rappeler. Et elle est antérieure. Puis l'acte moral commence avec la finalité. L'acte moral ne commence pas par la psychologie. Donc il faut, je dirais, saisir ces choses élémentaires, très élémentaires, mais qui sont philosophiques et qui montrent immédiatement la différence entre le... Alors ce serait très intéressant de regarder ça dans le concret, puisque c'est dans le concret, ça. Dès que je suis dans le conditionnement, je suis toujours dans le concret. Voir un peu la manière dont on résout le problème humainement par la délibération, par le conseil. Et puis comment on résout le problème psychologiquement en regardant le conditionnement en lui-même. En premier lieu, la situation. La morale de situation, c'est très significatif. Ça. La morale de situation, c'est... Il n'y a pas de morale de situation. Il n'y a de morale que par la finalité. Vous voyez. Mais on veut établir la situation, le conditionnement, comme un absolu qui s'impose. Et on veut trouver à travers lui la solution. Ça, il faut le faire. Il faut le faire soi-même. Tant qu'on ne l'a pas fait soi-même, on n'est pas vacciné. Et on retournera très très vite aux oignons d'Égypte. Très vite. Parce que il y a un poids aujourd'hui du conditionnement qui est tel qu'on s'en aperçoit même plus. On n'arrive pas à en sortir. Il faut déjà avoir un sens très grand de notre finalité pour sortir de ce conditionnement. On entre dedans. Il faut intégrer, c'est le mot qu'on a inventé, intégrer, l'intégration, absolument nécessaire. On s'intègre, on ne s'intègre pas à la fin. On est attiré vers la fin. Mais on s'intègre dans le milieu dans lequel on est. Et on s'intègre par le conditionnement. Alors, on découvre progressivement combien on est pris par cela. Il faut beaucoup de courage intellectuel pour tout le temps revenir à une saine morale. Oui. C'est la morale qui nous empêche d'être totalement psychologue. Oui. La solution psychologique ne résout pas le moral. La psychologie n'atteindra jamais le point du moral. Donc, il ne peut pas donner de solution. La solution, elle vient de la finalité. C'est ça qui est important. Donc, que la psychologie, dans certaines situations extrêmes où on est obligé de remédier ça à toute vitesse, très bien, on donne une solution psychologique, mais on y revient pour avoir une solution humaine. Oui, momentanément. Exactement. La situation entre le médecin homéopathe qui regarde la manière dont on vit et cas où on est obligé d'opérer, du point de vue du chirurgien qui opère, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais l'opération, il faut la guérir après. Elle enlève le mal momentanément, mais elle ne guérit pas. On est blessé. C'est très curieux ces choses-là. Mais il faut y réfléchir parce que c'est tout le rôle de la finalité et des moyens. Et on est tout le temps dedans et c'est le rôle de la prudence, cette sagesse pratique, qui nous permet de voir ce lien entre les deux. Et il faut bien se dire qu'il faut tout le temps reprendre, il faut tout le temps revenir là-dessus, dans les circonstances particulières de notre vie, dans les étapes successives de notre vie. La délibération et le conditionnement sont en vue du choix. Le choix est un acte humain, moral, extrêmement important. Vous voyez ? Le psychologue ne choisit pas, il est obligé d'accepter la conclusion. C'est très curieux. Il ne choisit plus. Vous voyez ? Il y a un point de vue artistique, technique, qui fait qu'on ne choisit plus. Ça s'impose. Je t'oblige de faire ça. Donc, on enlève au patient ce qui est très important dans sa vie morale, le choix. Le choix est très très important pour nous. Dans notre vie, il y a quelques choix qui sont très importants pour nouer notre vie. Et dans les moments de crise, où on ne voit plus rien du tout, il faut revenir au choix qu'on a fait. On a fait un vrai choix, on l'a fait librement, et on l'a fait en conscience, et on revient à cela. Ce sont un peu les phares de notre vie. Oui, un phare qui tourne, hein. Et qui nous éclaire et qui nous permettent de continuer. Autrement, on est dans le discontinu constant. Et là, on n'avance pas beaucoup. Le discontinu fait que dans le discontinu, il y a des arrêts. Il n'y a pas de choix. Il y a des arrêts. Il y a des obstacles qui empêchent. Et devant l'obstacle, on s'arrête. On ne choisit pas, on s'arrête. Le choix est un acte d'intelligence qui s'appuie sur la délibération et les conseils pour voir ce qu'il faut choisir, ce qui est bon à choisir actuellement, dans le temps, vu les circonstances. Un acte d'intelligence et un acte de volonté, d'amour. Ordinairement, pour que le choix se fasse vraiment, il faut reprendre notre attitude à l'égard de la finalité. Ce premier amour, et c'est comme ça qu'on cultive le premier amour, et que le premier amour doit se retrouver dans le choix, pour éclairer ce choix et lui permettre d'être vrai. On choisit des moyens, au sens vrai, mais on choisit des moyens toujours en vue de la fin. C'est le propre du moyen. Le moyen, c'est à l'égard d'un bien qui n'a de signification que tout entier tourné vers la fin. Donc, pour que ce choix se fasse avec force, avec netteté, ben, il faut nécessairement reprendre ce premier amour. Vous voyez ? Dans l'éducation constante, où on éduque celui qui est éduqué, on l'éduque à choisir. À bien choisir, à choisir avec finesse, à choisir avec amour, à choisir avec intelligence, ne pas se laisser emporter par la passion, ne pas se laisser intimider par la situation. On choisit en vue de la fin. Oui. Alors, celui qui est plus ou moins malade, il se tâte le pouls avant de choisir, sans regarder la fin. Mais il se regarde lui-même, où est-ce que je suis ? Vous voyez ma condition, mes richesses, mes faiblesses. On voit ça tout de suite. Hein. Il est en état de crise parce qu'il se regarde et qu'il se voit dans une impasse. Le chemin que j'ai pris est trop dur. Trop dur. Beaucoup trop difficile d'être fidèle et d'être vraiment un frère de Saint-Jean. C'est trop difficile. À ce moment-là, vous ne regardez que vous. Alors que vous devriez, si vous étiez vraiment un homme intelligent dans l'ordre pratique, regardez la finalité dirige toute votre vie, qui donne la force et le sens à toute votre vie. Alors à ce moment-là, vous faites appel à cet amour premier, oui, le premier amour, sur le bien qu'on a choisi, sur la finalité qui nous attire. Alors à ce moment-là, tout change, parce qu'on voit que l'efficacité première, la force première que j'ai dans ma vie provient de ma fin et ne provient pas de moi. C'est très curieux et ça, c'est très facile à remarquer. Les gens qui choisissent en se regardant, les gens qui choisissent en regardant la fin. Et c'est tout le temps comme ça, hein. Il n'y a pas moyen d'en sortir. C'est l'un ou l'autre. Quand vous choisissez le bas, le moyen le plus facile. Je me mets dans telle situation, oui. Là où il y aura la plus grande liberté, ce sera le plus facile. Je me regarde. Et autrement, je regarde la fin. Et je vois que le moyen que je dois choisir, c'est celui-là que je dois choisir. C'est difficile, mais je suis arriver à cette situation où je dois choisir comme cela. Je monte ou je descends. Il y a un choix qui descend, il y a un choix qui monte. Tout le temps. Le choix n'est jamais neutre. Ah, troisième position, la neutralité. Et la neutralité, on choisit de ne pas choisir. On choisit de ne pas choisir. On dit, oh non, je ne peux pas maintenant, je suis trop fatigué. Bon. Alors qu'est-ce que vous faites? Je choisis de ne pas choisir. Ah, très bien. Vous retirez l'épingle du jeu. Ou, c'est trop difficile. La fin que j'ai choisie, elle est trop grande. Je ne suis pas digne de ça. Ou, je vais me casser la tête avant d'y arriver. Ah, je choisis de ne pas choisir. C'est le retrait. Le choix, choisir de ne pas choisir, c'est se mettre dans une situation de neutralité. Je prends du recul. Et pendant un certain temps, je me retire. Pour être plus libre après. Mais non. Si vous n'êtes pas libre maintenant, si vous reculez, vous allez rester là-dedans. On monte toujours. Autrement, on descend. Et le fait de ne pas choisir, quand on doit choisir, prendre une situation d'arrêt, de se mettre soi-même dans une situation de recul, je ne veux pas choisir, c'est de se mettre dans une situation de faiblesse et d'enlever la possibilité qu'on a de se nouer. Le choix est un nœud. Je choisis ça pour arriver à ma fin. Vous voyez ? Et c'est soi-même qui établit ce nœud. Des nœuds qu'on ne peut pas dénouer. On vous apprend ça. Hein ? Le nœud qu'on ne peut pas dénouer. Eh bien, moralement, il y a des nœuds qu'on ne peut pas dénouer. C'est quand on choisit en vue du premier amour. Alors à ce moment-là, on monte toujours. C'est dur, il y a des moments durs, des moments qui sont pénibles, mais on va vers la lumière. Et c'est ça qui nous donne la force. On va vers la lumière. Donc on continue de marcher, de monter. Alors qu'autrement, on fuit. Le choix des moyens est donc un acte de l'intelligence et de la volonté. Et ultimement, c'est la volonté qui choisit. On a bien mesuré et on choisit. Donc ça exige un don nouveau à aller de l'avant, au contraire, un recul. Et dans le choix, c'est toujours comme ça. Si vous regardez le choix comme ça, comme un don nouveau pour la fin, vous marcherez. Si vous avez peur de regarder la fin et de voir ce don nouveau, vous allez vous regarder. Et vous allez reculer. Et pour ne pas choisir, vous dites, je ne choisis pas. Parce que vous êtes un peu honteux d'abdiquer. Alors, parce que vous êtes un honteux d'abdiquer, vous prenez une solution neutre. Je prends du recul. Mais prendre du recul, c'est ouvertement de dire « je n'ai pas le courage d'avancer ». On oublie trop que la vie morale, simplement la vie morale, hein, la vie humaine, est une vie de lutte. Tout le temps, vous ne pouvez pas avoir de neutralité. Vous désirez avoir de neutralité. Alors, Il y a des États qui prennent la neutralité comme devise, au point de vue politique. Au point de vue politique, ça peut se faire, mais pas au point de vue individuel. Regardez-moi bien, je suis un homme neutre. Je n'ai jamais choisi. Vous ne pouvez pas donner ça comme exemple. Regardez-moi, je choisis toujours en vue de ma finalité, pour aller toujours plus loin. C'est dur, il y a des moments où le choix est dur, et je m'accrocherai. Je marcherai à des pas plus lents pour s'accrocher. Mais je n'abdique pas. Je monterai tout lentement, péniblement, mais je monterai. Il y a une situation très spéciale et qui est très intéressante. C'est lorsqu'il s'agit de choisir un ami. Là, je prends un choix spécial. Le choix d'un ami. Vous voyez pourquoi ? Le choix classique, merveilleux, c'est le moyen, c'est le remède, c'est ce qui me permet de monter dans la lumière de la finalité. Donc je choisis des moyens. Et je sais que ce moyen est choisi pour être dépassé. Je ne l'aime pas pour lui-même, je l'aime en vue d'autre chose. Donc, je l'aime pour le dépasser. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime en vue de », vous avez tout de suite compris que vous étiez là pour ouvrir la porte. Ouvrir la porte, c'est ça. C'est être celui qui sert de moyen pour ouvrir la porte. Je suis la porte. J'ai cette humilité particulière d'être l'agneau qui accepte de mourir pour vous laisser passer. Et passer. Il y a un choix à l'égard de l'ami qui est un choix qui porte sur la finalité. C'est très curieux. Puisque l'ami est une certaine fin. L'ami n'est pas uniquement un moyen. L'ami est aimé pour lui-même, en tant qu'ami. Si vous n'aimez pas votre ami pour lui-même, ce n'est pas votre ami. L'ami est aimé pour lui-même. Donc ce n'est plus un moyen. Se servir de l'ami pour ouvrir une porte, se servir d'un ami parce qu'il a beaucoup de relations et que ça va me permettre d'avoir ces relations grâce à lui, ce n'est pas un ami. Un ami, on l'aime pour lui-même. Donc, on le choisit comme un bien qu'on aime en lui-même et pas comme un bien qui nous sert d'atteindre un autre bien. Il y a donc quelque chose de très particulier dans le choix de l'ami. Et c'est pour ça que c'est un choix qui est particulièrement grave, particulièrement important. Je te choisis comme ami. Et c'est un arrêt dans notre vie. C'est la conquête d'un certain bien, d'une certaine finalité. Ça ne m'empêchera pas de pouvoir poursuivre ma recherche et continuer avec mon ami de chercher la vérité. Je le sais, que la recherche de la vérité dépasse le choix de mon ami et le choix de mon ami est dépendant de cette recherche de la vérité. Si ce choix de l'ami n'est pas dépendant de la route que je prends en vue de la finalité, ça prouve que ma finalité n'est pas très précise. La finalité de l'esprit, de l'intelligence, c'est la recherche de la vérité. Et ça, c'est une recherche plus profonde que celle de l'ami. Alors, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans le choix amical. Mon intention de vie est un acte de volonté et d'intelligence qui se porte sur une fin. J'ai vraiment l'intention de chercher la vérité. Ça, c'est l'intention de ma vie. Mais bon, je prends les moyens pour chercher cette vérité. Et parmi ces moyens pour chercher la vérité, il y en a un qui est particulièrement important. C'est le choix d'un ami, le choix d'une personne. C'est donc dans les lumières, c'est donc dans la lumière de mon intention de vie, de mon intention d'atteindre la vérité, que je choisis vraiment cet ami. Et je le choisis en tant que il sera pour moi une grande étape, étape très sérieuse, où je m'approcherai de la vérité, où je serai beaucoup plus immédiatement sous l'emprise de la vérité. Mon amitié pour mon ami est vraie. C'est lui que j'aime. Je l'aime comme personne. Et ensemble, nous coopérons dans cette recherche de la vérité. Vous voyez que ce choix est vraiment un choix parce que, avec lui, je cherche la vérité. Si je ne recherche pas la vérité avec lui et que je suis polarisé très profondément par ce choix de la vérité, cet ami ne s'intègre pas dans ma vie. Il y aura l'ami et la recherche de vérité. Quand il y a l'ami et la recherche de vérité, j'ai bien choisi l'ami, mais il n'a aucun sens cette recherche de vérité. Donc, l'ami deviendra quelque chose qui s'est développé indépendamment de mon choix de la vérité. Et plus ce choix de la vérité se développe et s'empare de moi, plus l'ami demeure à sa place, n'est pas pour moi un ami vrai qui s'intègre dans ma recherche de la vérité. Et il sera donc relégué. Ma finalité ne le regardera pas. Donc, le choix de l'ami ne sera vrai comme choix de l'ami que dans la mesure même où l'ami me permet de m'approcher et de vivre davantage de la recherche de la vérité. Alors, à ce moment, l'ami est à la fois aimé pour lui-même et aimé parfaitement dans cette recherche de la vérité. Et en même temps, je l'aime pour lui-même parce que c'est ce qu'il y a de plus profond en lui, cette recherche de la vérité. Parce que si c'est ce qu'il y a de plus profond en lui, je l'aime vraiment si ensemble nous recherchons la vérité. Vous voyez, ce choix de l'ami est le choix magistral dans ma vie. C'est vrai, c'est l'ami, choisir une personne comme ami, ce n'est pas du tout le relativiser à moi, et donc et qui perd son absolu de personne, non, parce que j'aime dans l'ami ce qu'il y a de plus vital, de plus profond, de plus lui-même, sa recherche de la vérité. Alors, à ce moment-là, l'ami devient un moyen merveilleux, unique, de la recherche de la vérité. Et les deux s'unissent. Cela est possible dans l'ordre spirituel. Cela n'est pas possible dans l'ordre matériel. Dans l'ordre matériel, je ne peux pas choisir un moyen comme fin et comme moyen. C'est contradictoire. Dans l'ordre spirituel, oui. Parce que dans l'ordre spirituel, je choisis cet ami pour telle raison. Et donc, si je le choisis pour ce qu'il y a de plus profond en lui, c'est-à-dire sa propre fin, mon choix va coïncider avec son propre choix. Et ensemble, on pourra rechercher le même bien, la même finalité. À ce moment-là, mon choix me permet d'accentuer ma recherche finale, mon intention. C'est un arrêt, mais un arrêt qui est fait pour repartir avec plus de force. Je crois qu'il y a là quelque chose de très spirituel. Ça ne peut exister qu'au plan spirituel, où l'ami sait qu'il sera une étape dans la recherche de la vérité. Et que pour lui, c'est ce qu'il y a de plus grand de servir d'étape dans la recherche de la vérité. Il y a quelque chose de très curieux et de très spirituel qui montre bien que l'amour d'amitié que j'ai pour mon ami est quelque chose de grand. À ce moment-là, il n'est pas une ombre dans ma recherche de la vérité. Il est au contraire un moyen qui me permet de chercher la vérité avec plus d'ardeur. Donc, un moyen, je dirais, complètement dynamisé par la fin, va devenir pour moi une fin. C'est ma finalité qui s'approche avec mon ami. C'est ma finalité de la recherche de la vérité qui, subitement, grâce à ce choix amical, se donne à moi, concrètement, et me permet d'aimer encore mieux cette recherche de finalité. Et ça, c'est possible dans l'ordre spirituel. Et c'est cela qui montre la grandeur de l'amitié. Quand l'ami ne fait pas nombre avec la recherche de la finalité, mais au contraire, permet à cette recherche de finalité d'être plus réaliste, d'être plus vraie, d'être plus concrète. Alors à ce moment-là, on a ce phénomène très spécial que ma fin et le moyen d'atteindre cette fin vont se réaliser dans l'unité. Et le moyen ne sera plus moyen, mais sera comme le visage pour moi de ma fin, sera comme ma manière pour moi d'atteindre ma fin. Dans l'ordre surnaturel, cela existe parfaitement avec le mystère du Christ. Et c'est ça qui est particulièrement important à voir. C'est que ma vie chrétienne va confirmer ce qu'il y a de plus grand dans ma vie humaine. Un ami qui me permet d'atteindre ma fin. Un ami qui pour moi est un ami. Il est vraiment tout proche. Je le choisis comme un autre moi-même. Et qui me permet d'être plus lié à ma fin, ou d'être non seulement plus, mais d'être lié à ma fin. Dans le cas du Christ, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Le Christ se fait homme pour être tout proche de moi, pour que je puisse le choisir comme ami. Et en même temps, il est ma fin. Alors, mon choix amical de charité se confond avec mon désir de contemplation. Je vois que l'élément connaissance va être porté pleinement par l'amour et va pouvoir se développer grâce à l'amour comme il ne pourrait pas se développer par lui-même. Il y a là quelque chose de très impressionnant au point de vue philosophique et au point de vue théologique. La rencontre de la philosophie et de la théologie va se faire par le Christ ami. Ami de mon intelligence, ami de mon cœur. Parce que je puis considérer vraiment comme celui qui me permet de gravir cette montagne en vue de la béatitude d'une façon parfaite grâce à lui. Et cette relation pourra se faire pleinement. Il y a une rencontre de la finalité et du moyen qui se fait dans un regard de sagesse. Jésus est ma fin, Jésus est le moyen le plus parfait qui soit pour moi. Et cela se réalise dans le mystère de l'Eucharistie. Il se donne à moi. C'est bien l'acte parfait de l'ami. Et il est pour moi fin. Il m'est totalement donné et il est pour moi totalement fin. Donc, le point de vue de l'amour et le point de vue de l'intelligence se trouvent intimement unis. Et c'est cela qui caractérise une connaissance sapientiale, une connaissance de sagesse. Elle est un choix et elle est une fin, une vérité. Par là, vous voyez, Dieu me montre que ma volonté et mon intelligence peuvent concourir au meilleur des choix, au plus grand des choix, choisir Jésus comme ami, c'est me finaliser. Alors vous voyez cette chose très curieuse et très belle. Dans la finalité, je subis l'influence de la finalité. Dans le choix, je choisis l'ami. Les deux se rejoignent. L'aspect ultime de subir la finalité, passivement, être attiré vers la fin, et le choix de l'ami, qui est choisir l'ami comme étant celui qui peut me vraiment me finaliser.